cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre maintenant dans un petit peu de technique patrimoniale. On accueille Charlène Nespoulos. Bonjour Charlène.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, gérante de Nespoulos Gestion Privée. Et on va rentrer dans nos familles, dans les familles recomposées. C'est vrai que ça existe de plus en plus souvent. Et ça pose des questions, notamment en termes de régime matrimonial, c'est ça ?
Exactement. C'était un sujet qui me semblait important. Aujourd'hui, si on remet un petit peu de chiffres, hein, dans le contexte, un couple sur deux, un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc, on a une montée en puissance des familles recomposées, hein, issues de ces conséquences-là. Et forcément, ça pose des questions, notamment quand rien n'est prévu en cas de décès.
C'est parce que quand tout va bien. Hein, c'est...
Toujours.
Mais c'est pas toujours le cas.
Voilà. Et en cas de décès, on peut se retrouver face à des difficultés, que ça soit tant sur le volet civil que le volet fiscal.
Alors, tout, je le disais, ou presque, tient au régime matrimonial. Et ça veut dire qu'il y a quelques mots comme ça qu'on va mettre sur la table. Concubinage, pax, mariage, on a envie de dire même combat, ou justement c'est là que le diable se cache dans les détails ?
C'est là que le bât blesse.
Ouais.
À chaque régime matrimonial, ses spécificités, encore une fois, hein, tant sur le volet civil que fiscal, et il est vraiment important de faire cette différence parce que les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue civil parfois, mais aussi, parfois, ça sera également sur le volet fiscal, et souvent, c'est le volet fiscal quand même où le bât blesse.
Alors, on commence par lequel, enfin, entre guillemets ?
Alors, on va dire le mariage, ouais. Hein, parce que si on reprend un petit peu les chiffres, 3 couples sur 4 sont mariés, donc on a quand même encore le mariage qui est...
Une prédominance du mariage.
Exactement. Au niveau du mariage, donc, d'un point de vue fiscal, on va éluder tout de suite la question. Depuis la loi TEPA 2016, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Donc, d'un point de vue fiscal, pas de souci. D'un point de vue civil, les choses se compliquent, notamment quand on est en présence d'enfants non communs. Quand on est dans le cadre du mariage, on a une différence qui s'opère entre quand on est en présence d'enfants communs et d'enfants non communs. Puisqu'on parle de famille recomposée, on va forcément parler d'enfants non communs. Dans ce cas-là...
Sachant que dans une famille recomposée, on peut avoir des enfants non en commun et des enfants en commun,
exactement,
histoire de bien compliquer le scénario.
Exactement.
Donc allons-y.
Présence d'enfants non communs, le conjoint survivant hérite d'un quart du patrimoine en pleine propriété, sauf disposition différente, à savoir une donation au dernier vivant qui permettrait d'accroître les droits du conjoint. Prenons donc ce cas-là où, bien évidemment, on n'est pas forcément très bien conseillé et on se retrouve donc en présence d'enfants non communs, un quart du patrimoine en pleine propriété.
Bon.
Là, attention, c'est le point civil qui va poser des problèmes, notamment, puisque en cas de décès, le conjoint survivant va donc hériter d'un quart du patrimoine en pleine propriété, ce qui sous-entend des questions d'indivision.
Eh oui. Il faudra partager.
Et c'est là que tout pose problème, notamment quand on se retrouve avec, on va prendre le cas de biens immobiliers, des héritiers qui veulent vendre. Et là, il faut l'accord de tous les indivisaires pour vendre. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord et tout est figé.
Ouais, et on se retrouve dans un corner.
Voilà. Donc, dans le cas du mariage, oui, le mariage est le système, le régime matrimonial le plus protecteur qu'on puisse avoir. D'un point de vue fiscal, pas de souci, mais par contre, d'un point de vue civil, on peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates. Et ce que tu disais est extrêmement vrai, d'autant plus quand on se retrouve avec des enfants qui peuvent être communs et non communs. Le mix des deux, en général, ouais, ça marche plutôt mal.
Et donc, du coup, il faut être conseillé et il faut s'occuper, quand tout va bien, de son mariage. Pax et concubinage. C'est donc différent, j'imagine, puisqu'on a procédé par ordre.
Exactement. Pax, concubinage, deux régimes encore différents, d'un point de vue civil, mais aussi d'un point de vue fiscal. Là où les deux régimes se ressemblent, c'est d'un point de vue civil, dans le sens où le survivant, le partenaire de Pax ou le concubin, donc, n'a pas la qualité d'héritier. Donc, il n'a pas vocation à hériter du patrimoine du défunt, sauf disposition testamentaire contraire. Donc ça, d'un point de vue civil, c'est la même chose.
D'accord.
Par contre, d'un point de vue fiscal, c'est pas tout à fait la même chose, puisque le partenaire de PACS, lui, est exonéré de droits de succession, comme le...
Donc en cela, le PACS rejoint, entre guillemets, le mariage.
Exactement. D'un point de vue fiscal, PACS, mariage, même combat. Par contre, le concubin est considéré comme un étranger. Et donc là, c'est 60% de droits après un abattement de 1594 euros.
Ouais.
1594 euros. Ouais. 60%.
Autant dire, sur un appartement, une paille.
Ça peut coûter extrêmement cher.
Bon, alors, on a bien compris tout ça. Mais c'est vrai que quand on parle de situation patrimoniale, les textes, les articles, tout ça, c'est bien, mais rien de mieux qu'un bon exemple, entre guillemets. Est-ce que vous avez une situation, Charlène, concrète à nous présenter pour illustrer finalement notre propos et bien faire comprendre, j'ai envie de dire, l'urgence de la situation et l'urgence qu'il y a à s'occuper, quand tout va bien, quand on est heureux, quand il n'y a pas de problème, de ce qui peut advenir, en fait.
Exactement.
Et en rappelant en préambule que le fait d'y penser
ça fait pas mourir.
N'est pas réalisateur. Ouais, voilà, c'est ça.
On est d'accord.
C'est comme rédiger son testament, ça ne fait pas mourir. Hein.
Exactement. Et ça, malheureusement, c'est une fois qu'on y est confronté où on est encore plus sensibilisé à ça. Et j'ai malheureusement, même si j'ai que 10 ans d'expérience dans ce métier, j'ai vécu ça avec une cliente. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, hein, ma cliente, Marie-Christine, vit depuis plus de 30 ans avec son concubin, pour le coup. Pas de PACS, pas de mariage. Ils étaient concubins avec tous les deux des enfants de leur côté, deux enfants de chaque côté.
Et tout allait bien,
voilà.
Pas besoin de PACS, pas besoin...
On vit la douce vie, tout va bien. Et puis arrive donc une transmission. Monsieur dispose d'un bien familial, une belle Toulousaine dans la région de Toulouse, et donc des rénovations, des travaux, et ils réalisent les travaux ensemble, volonté de couple, bon, tout va bien. À ce moment-là, quand même, monsieur se dit, je vais aller chez mon notaire, je veux bien faire les choses, ce bien immobilier va prendre de la valeur, il faut quand même que je protège Marie-Christine, donc je vais consulter mon notaire. Son notaire lui préconise un testament dans lequel il lègue l'usufruit à sa compagne. Donc, quand je rencontre ma cliente, monsieur n'était pas du tout client. Quand je la rencontre, je lui pose la question, je lui dis « ce bien immobilier vous appartient ?» Elle me dit « non, je ne suis pas propriétaire, c'est un bien familial, mais par contre, j'ai contribué à l'aménagement, j'ai payé la cuisine, les dressings, bon bref, toute la déco, bon. » Une vie de couple normale. Mais Philippe m'a prévenu, je suis mise à l'abri, il a fait tout ce qu'il fallait auprès de son notaire. Bon, je lui dis, ok, mais quand même, je me dois de te mettre en garde, la fiscalité, vous êtes concubin, vous êtes considéré comme des étrangers, s'il arrive quelque chose, c'est 60% de droit. Bon, ma cliente n'entend que vaguement ce que je lui dis, considérant qu'aujourd'hui, il n'était absolument pas question ni de se marier, ni de se paxer. Donc, la situation lui convenait.
Bon.
Sauf que, matin d'hiver, monsieur part faire la sieste et ne se réveille pas.
Aïe. Et là,
c'est le drame.
Ouais.
C'est le drame. Découverte du testament, ouverture du testament. Les enfants du défunt, eux, n'avaient qu'une idée en tête, c'était vendre ce bien immobilier. Et ma cliente découvre au testament qu'en effet, elle bénéficie de l'usufruit, voilà. Mais l'usufruit, il faut le payer, et c'est 60% de droit dessus, pour un usage qui ne reste que temporaire.
Et oui.
Et sur un bien immobilier de grande valeur...
60%, ça fait beaucoup.
Ça marche pas. Ouais. Voilà. Et ma cliente se retrouve à 60 ans, à devoir mettre 30 ans de vie commune derrière elle, et faire ses valises.
En plus de tout le trouble de la perte d'un être cher, tout ça.
Voilà.
Bon, donc là, on illustre quand même clairement que tout peut basculer à tout moment et qu'il faut donc vraiment entendre les conseils. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
La conclusion, c'est que, comme on le disait, prévenir, ça ne fait pas mourir. Il est vraiment très important, nous, en tant que conseil, de sensibiliser nos clients, d'insister là-dessus, de mettre des chiffres, de leur présenter l'addition, clairement, en cas de décès.
Et de jouer l'agent des impôts en disant, voilà combien je vais vous demander demain. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait pour vos enfants? Les confronter à cette situation-là, parce que c'est un petit peu la solution de facilité d'occulter un petit peu cette situation, parfois, mais c'est aussi par la méconnaissance, parce que les autres conseils n'ont pas mis en garde. Donc je pense que c'est notre rôle à nous de vraiment sensibiliser nos clients là-dessus pour éviter des situations catastrophiques.
Et donc là, par exemple, pour être très clair, il avait été chez son notaire, mais c'était tout.
Oui.
Alors qu'un Pax, par exemple, exactement, j'ai envie de dire en loose day à deux en mairie sans faire de vagues.
Exactement.
Aurait résolu toute la problématique qui s'est posée.
Bien sûr, parce que là, on avait réglé le volet civil, puisque, en effet, un testament légué à ma cliente l'usufruit de cette résidence principale, mais il n'avait pas été réglé le volet fiscal. Et aujourd'hui, c'était la vraie question, le vrai problème.
Voilà comment un exemple vous éclaire. Merci beaucoup, Charlène, d'être passée et nous raconter cette histoire qui n'est pas forcément drôle. Mais la gestion de patrimoine, ce n'est pas forcément tous les jours rigolo, mais ça permet de mieux comprendre et de mieux anticiper peut-être la gestion de vos placements et de votre patrimoine. Merci beaucoup, Charlène.
Merci.
Charlène Nespoulos, donc, pour Nespoulos Gestion Privée. À très bientôt.
À bientôt.
Et tout de suite, on continue à parler de votre patrimoine. Et vous allez voir qu'on va tordre le cou à quelques idées reçues. Allez, à tout de suite.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.